De retour à Delirium Environnemental, le magazine d'information en environnement. Avant de poursuivre sur la revue de presse, revue de l'actualité en cette belle semaine de la réduction des déchets au Québec, je profite de cette pause pour vous rappeler que Delirium Environnemental, c'est également un site Internet que vous pouvez trouver au www.radiodelirium.net, mais c'est également une cyberlette à laquelle vous pouvez vous abonner, ce qui fait que chaque semaine, on vous envoie la page web sur laquelle vous pouvez avoir accès à une foule d'informations sur ce qui fait l'actualité en environnement, tant au Québec qu'autour de la planète, c'est-tu beau. On poursuit donc la revue de presse, revue de l'actualité. Le rapport Coulombe donne des fruits. Donc, il y a certaines suites. On se souvient que le rapport Coulombe, c'était cette enquête. Non, cette étude sur la gestion forestière au Québec, qui était en fait l'espèce de réponse au documentaire choc de, entre autres, Richard Desjardins, Monsieur Mondry. Donc, plusieurs millions, quelque chose comme 500 millions qui est investi, entre gros guillemets, de ma part, dans les forêts québécoises.
Ben oui, en fait, c'est une bonne nouvelle pour plusieurs régions de la province, puisque, bon, c'est 167 nouveaux millions rajoutés aux anciens, ça fait 450 millions de dollars que la province de Québec investit pour redresser l'industrie forestière, mais c'est aussi 50 millions provenant du fédéral, donc c'est une belle batterie de 500 millions de dollars envoyée en réponse aux panique assez criante des régions du Québec suite à la réduction de 20% de la possibilité forestière. Vous savez que ça a été la première recommandation du rapport Coulombe qui a été mise en place, la loi 71, qui a dit OK, on coupe trop, faut absolument réduire ce qu'on coupe, donc on réduit de 20% d'ici à 2008 en attendant qu'on voit comment qu'on peut se réajuster. Malheureusement, cette mesure-là, elle avait été appliquée très rapidement sans mesure compensatoire, et c'est là la réponse du gouvernement cette semaine.
Donc, c'est des millions consolatoires. C'est pour consoler les gens d'avoir perdu une partie de leur profit après avoir vidé les forêts québécoises.
Pas tout à fait. En fait, c'est des mesures de restructuration, entre autres, parce que vous savez qu'un des gros pans de la commission Coulombe visait la régionalisation et surtout la transformation, la deuxième et la troisième transformation, en fait, donner plus de pouvoir d'action aux régions et garder notre économie de façon vivante sans renvoyer toutes nos ressources naturelles très peu transformées à l'étranger. C'est ce que ces argents neufs-là veulent faire. Malheureusement, il y a des petits bémols. Il faut savoir que la commission Coulombe, c'est pas seulement cette loi 71 et la création d'un chef forestier, le poste de chef forestier qui se fait toujours attendre. C'est une batterie de 81 recommandations qui n'ont pas été encore appliquées. Mmh. Et c'est là que ça soulève quelques inquiétudes, puisque si on est prêt à investir 500 millions pour redresser l'industrie forestière québécoise, est-ce que cet argent-là serait pas plus productif ou plus intéressante à mettre sur une nouvelle gestion forestière, sur une restructuration totale de la machine forestière québécoise, à savoir est-ce qu'on peut fonctionner avec, entre autres, la certification forestière environnementale? Est-ce qu'on peut mettre plus d'argent sur l'aménagement écosystémique le cœur de la commission Coulombe?
Est-ce qu'on peut peut-être développer d'autres types de cultures fibreuses pour faire des pâtes et papiers? Parce que, notamment, il y a une rumeur qui court selon laquelle le chanvre pourrait être beaucoup plus productif, de l'ordre de deux fois plus productif. En termes d'une année, la récolte fibreuse serait deux fois plus grande que ce que ça nous prend en 30 ans pour regréer une forêt québécoise.
Mais je pense aussi qu'il faut faire attention, parce que, par exemple, le chanvre est un bon exemple de de nouvelles cultures qu'on pourrait implanter dans la forêt, une alternative. En même temps, il faut faire attention. L'exemple de l'eucalyptus en Australie montre qu'avoir mis l'eucalyptus partout, mais c'est que ça vide le sol de ses nutriments tellement rapidement que à long terme, ce n'est pas quelque chose de nécessairement viable. Donc, il faut faire attention. Mais moi, ce que je pense qui est surtout préoccupant, c'est que, voyez-vous, présentement, il y a trop d'infrastructures de coupe au Québec pour la forêt qu'on a. Mm-hmm. Donc, quand on entend, je m'excuse des propos que je vais tenir, mais quand on entend un pauvre petit chef syndical d'une industrie en Abitibi ou Lac-Saint-Jean nous dire que le gouvernement tient pas ses promesses parce qu'il y a des jobs qui vont se perdre, mais il faut comprendre qu'il y a trop d'usines de coupe au Québec. Donc, c'est sûr que des personnes vont perdre leur job pour ce qui est de l'industrie directement liée à la coupe de bois. Mm-hmm. Le problème, c'est présentement, s'il y a 500 personnes qui travaillent dans l'industrie forestière dans une ville au Québec, c'est 500 personnes qui coupent des arbres. Alors qu'on pourrait avoir très bien 100 personnes qui vont en couper et 400 qui font de quoi avec. Alors que présentement...
Donc, la transformation de deuxième et
voilà,
niveau.
C'est ça qu'on entend. Et là, présentement, ben, on envoie ces planches-là en 2x4 directement aux États-Unis. En plus, on a le conflit du bois d'œuvre qui nous fait perdre une quantité folle d'argent dans ça. On parle de 5 milliards depuis les dernières années. Donc, on continue présentement à avoir une idée des régions ressources qu'on appelle au Québec, donc ce qui n'est pas les grands centres, l'idée de région, dans le fond, comme le tiers-monde, dans le fond, une place où on va chercher des ressources, on les transforme peu, bref, on leur ajoute pas de valeur ajoutée en région, on envoie ça ailleurs, et qui fait la vraie argent sur nos forêts, c'est les Américains, malheureusement.
On va déjà devoir s'arrêter ici parce que le temps file. Commission Coulombe, donc, ces millions investis, ça sera justement peut-être important de garder à l'œil ce qui sera fait avec ces beaux millions-là. Un autre dossier où est-ce que vraiment, excusez-moi le mot, on se fait fourrer ben raide, c'est l'exploitation de l'eau au Québec au profit d'intérêts privés. Au Québec, mais aussi ailleurs, semble-t-il que certaines personnes ont des visées sur l'exploitation de l'eau des Grands Lacs, et ça me surprend parce que vous savez que les Grands Lacs sont quand même très, très pollués.
Oui, ils sont très pollués, sauf qu'ils ont un avantage, c'est que c'est des lacs. Donc, l'eau reste très, très, très longtemps dans les Grands Lacs. Les polluants décantent dans le fond, donc il y a quand même une qualité d'eau dans les Grands Lacs qui est non négligeable. Et surtout, c'est qu'avec un coût de traitement relativement faible, ça reste une des sources d'approvisionnement en eau douce les plus riches de la planète. Et jusqu'il y a 10 ans, les efforts au niveau de l'exploitation de cette eau sous forme commerciale étaient relativement discrètes. Mais depuis quelques années, on assiste à une montée de la volonté industrielle, notamment devant des marchés qui s'ouvrent, je pense entre autres à celui de la Chine, on en parle beaucoup, mais celui de l'Inde aussi, où il y a des problèmes criants en eau potable, et où on a vraiment fait le calcul, ici notre eau, là, on met une champlure sur le lac supérieur, on remplit des bouteilles, on envoie ça en Chine, on vend ça au-dessus d'une pièce américaine, la petite bouteille d'eau, on est riche vite. Donc, il y a beaucoup de pression qui émane de l'industrie pour justement rendre cette eau-là commerciale. Et depuis quelques années, il y a le fameux conseil des gouverneurs des Grands Lacs qui rend la chose peut-être un peu plus facile aux exploitants ou aux futurs exploitants. Le conseil des gouverneurs, dans le fond, c'est les 8 gouverneurs des États américains qui bordent les Grands Lacs, ainsi que le premier ministre ontarien et québécois, qui, dans le fond, négocient de leur côté des avantages justement pour essayer de faire un peu plaisir à tout le monde. Et ce qu'on a eu comme idée cet automne, c'est de mettre ensemble les deux opposés du spectre, c'est-à-dire les industriels et un groupe environnemental, pour voir s'il n'y aurait pas un compromis à faire au niveau de l'exportation de l'eau. Et malheureusement, on est arrivé à un compromis. Le groupe qui défendait les intérêts environnementaux, c'est le National Wildlife Federation, c'est un groupe états-unien qui défend ces intérêts-là. Et ce groupe-là, on est arrivé avec une certaine idée de compromis où on pourrait justement y aller d'une certaine exportation de l'eau, en disant que le réel problème pour les Grands Lacs ou le réel danger pour les Grands Lacs, c'est davantage l'exportation par des pipelines qui iraient dans le Midwest américain. Donc, mais à l'opposé, c'est qu'une trollée, excusez-moi, c'est beau mon air, hein? Trollée de groupes environnementaux, eux autres, ils disent non, si on ouvre la porte à une première exportation d'eau, on va complètement perdre le contrôle, on va y aller vers des exportations massives. Donc, c'est un sujet qui est hyper important à tenir à l'œil, parce que c'est d'ici décembre qu'on va voir la décision finale. Donc, surveillez ça, parce que ça va sans doute faire barder, et les États-Unis, croyons-le ou non, sont souvent très mobilisés par ces questions-là, donc peut-être qu'on va enfin des personnes qui vont nous appuyer de l'autre côté de la frontière.
Je vous invite, pour ceux qui voudraient s'intéresser à ces questions-là, peut-être de façon plus ludique, à lire le livre qui va être lancé lundi prochain, le 24, l'ouvrage de Madame, le roman, en fait, de Madame Varda Bruchten, c'est très difficile à dire, mais le titre est facile, H2O incorporé, justement sur les velléités des différents voisins, notamment États-Unis du Canada, de vouloir voler notre eau. Ça risque d'être très intéressant. On suivra bien sûr le dossier pour vous, Nicolas Mainville, Nicolas Milo. Merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Au retour, on vous parle de grippe aviaire, de réduction de déchets et de spermatozoïdes. On en a beaucoup entendu parler, la grippe aviaire a fait couler beaucoup d'encre, on s'inquiète, on pense que c'est peut-être une épidémie de l'ordre de la grippe espagnole qui a tué des millions de personnes sur la planète. On en a beaucoup entendu parler, justement, le fait que les poules, entre autres, ont la grippe. Par contre, on a peut-être moins entendu parler des impacts environnementaux de ce type de catastrophe sanitaire. Nicolas Milo, c'est une dimension du problème qui t'inquiète.
Oui, tout à fait, parce que il n'y a pas juste les... Oh, désolé. Ça marche pas du tout, désolé. Mais bref, oui, c'est quelque chose qui devient d'autant plus criant, d'autant plus que cette semaine, on a des premiers cas de grippe aviaire qui ont été relevés en Europe. Donc, on a vraiment cette crainte-là que le continent européen soit frappé de plein fouet par cette pandémie de grippe aviaire. Il faut dire que des pandémies de grippe, c'est des événements qui sont récurrents, c'est pas exceptionnel. Il y en a eu 4 dans le dernier siècle. C'est des événements dont on s'attend. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas quand et à quelle force elles vont frapper. Et le problème, c'est que, vu le vecteur de celle-là, c'est-à-dire les poulets ou, bref, les volailles, eh bien, c'est une grippe qui pourrait très facilement côtoyer l'homme et faire en sorte que l'homme soit de plus en plus vulnérable à cette grippe. Je m'explique. Présentement, l'influenza qui cause la grippe chez le poulet, eh bien, n'affecte que le poulet. C'est quelque chose de tout à fait normal, tout à fait naturel. Ça fait plus de 100 ans qu'on l'observe autour de la planète. Il reste que si, par exemple, un humain attrape cette grippe-là et que cet homme-là est pas, ou cette femme-là, est porteuse de, d'un virus de la grippe qui affecte l'homme, eh bien, il pourrait avoir mutation entre les deux virus de la grippe et produire, dans le fond, un super virus de grippe aviaire qui, lui, serait responsable d'une pandémie. Et aujourd'hui, avec, premièrement, des niveaux de population qui, entre autres, en Asie du Sud-Est, sont si importants qu'on peut avoir là un foyer de virus qui est incroyable. Et avec l'aviation civile aussi, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, un virus part d'Hong Kong puis est rendu à Los Angeles, à New York, la journée même, eh bien, c'est qu'on pourrait arriver avec un effet très, très rapide en cascade de cette pandémie-là qui nous guette. Ce qui est particulièrement préoccupant aussi, c'est que ce ne sont pas que les oiseaux domestiqués qui sont touchés par ça, mais tous les oiseaux aquatiques aussi. Donc, tous les oiseaux migrateurs peuvent être vecteurs, porteurs, des canards, les oies, bernaches, pour ceux qu'on connaît ici. Mais je veux dire, les mêmes animaux sont présents avec des noms différents en Asie, en Europe. Et ce qui pourrait être inquiétant, c'est de voir les réponses qu'on risque de donner à une future propagation du virus par ce vecteur-là. On voit, dans les années 80, il y a eu un cas de grippe aviaire aux États-Unis où c'est 17 millions de poulets, de canards, d'oies, peu importe, domestiqués, qui ont été tués en l'intérieur d'une semaine. Là. C'est pas long, on règle le problème. Alors imaginez-vous si on se rend compte que les peuples d'oiseaux migrateurs ont une influence comme vecteur, ou les décisions pour quand même sauver la santé humaine, car c'est ça, c'est un enjeu de santé humaine avant tout, pourront être prises face à ça. Donc il y a quelque chose de très préoccupant et qui remet aussi en question tout notre rapport que l'on a à cette industrie-là, qui est l'industrie viandeuse. Les populations de poulets ici, je veux dire, c'est rendu quelque chose. Quand on parle de tuer à Vancouver dernièrement ou dans les 5 dernières années, je crois qu'on a tué quelque chose comme 8 à 10 millions de poulets dans la même semaine parce qu'on avait eu une crainte d'avoir ces cas-là. Ça veut dire qu'il y a 8 à 10 millions de poulets présents simultanément à chaque moment de l'année à Vancouver seulement. Et on en a au Québec, il y en a en Ontario. Bref, c'est quelque chose qui peut prendre des proportions rapidement démentielles et qui nous... moi, je trouve que ça nous fait questionner vraiment ce rapport qu'on a là à la viande.
Oui, parce que loin des yeux, loin du cœur, quand on les voit pas, justement, c'est 4 millions, 6 millions, 10 millions, 17 millions de poulets-là. On n'a pas justement peut-être l'idée de quel genre d'impact aussi environnemental ça peut avoir. Toute l'industrie viandeuse a extrêmement un poids débile sur l'environnement. Nicolas Mavis, c'est un dossier que tu connais bien et que tu as à cœur. Mais bon, il y a tellement de choses desquelles il faudrait qu'on vous parle aujourd'hui. Alors, on va enchaîner tout de suite. On parle d'une bonne nouvelle en France. Sautons du coq à l'âne, et c'est le cas de le dire, ou plutôt du coq au plastique.
Vous savez que le poulet implique une quantité astronomique d'emballage, hein, vu qu'on parle d'emballage, là, on va faire le lien. Oui, je vais vous parler de déchets en cette semaine de réduction des déchets. Mettez-vous dans une situation presque quasi orgasmique qui est la suivante. L'Assemblée nationale, en cette date, disons, du 11 octobre 2005, a adopté à l'unanimité, en première lecture, un amendement de loi d'origine agricole qui dispose qu'à partir du 1er janvier 2010, la commercialisation et la distribution de sacs ou emballages en plastique non biodégradables sont interdites sur le territoire québécois.
Québécois français.
Est-ce que vous avez...
Le territoire français.
Mais t'as peu, là. C'est une supposition de titre orgasmique, là. Voyons. Alors, c'est en fait une nouvelle qui est vraie. Ce n'est pas une supposition, mais ce n'est pas au Québec que ça se passe. C'est en France. Nicolas, t'as gâché mon pain. Alors, le 11 octobre dernier, c'est effectivement vrai, le gouvernement s'est mis d'accord pour interdire toute commercialisation et distribution de sacs de plastique non biodégradable et tout emballage de plastique non biodégradable sur le territoire français. Grosse nouvelle, ce qui est accompagné par contre de mesures. Vous savez que il y a déjà cette nouvelle manne des sacs biodégradables faits avec des biomatériaux, notamment le maïs qui est très utilisé pour les bioplastiques. Mais la première stratégie qui est proposée par le gouvernement français, c'est vraiment l'utilisation de sacs réutilisables, donc les fameux cabas, ces sacs en tissu qu'on fait juste amener à l'épicerie. Écoutez, c'est pas compliqué, tu amènes ton sac, tu prends tes affaires, tu retournes chez vous, c'est le fun. C'est ce que le gouvernement français dit.
Deuxième accomplissement quand tu arrives à la caisse et tu sors de ton
Et voilà.
Et moi, j'en profiterai pour féliciter Le marché La Récolte, à côté de chez nous à Verdun, qui lui a fait le pas cette année, vend ces beaux petits sacs-là lui-même. Avec son logo dessus, il se fait de la pub en même temps, puis il diminue sa consommation de sacs de plastique.
Alors là, intelligent. Avec ta tranche de vie, là, tu m'empêches de finir ma nouvelle.
Attends, juste peut-être pour attirer l'attention des gens sur pourquoi est-ce qu'on en a tellement contre les sacs de plastique. Un sac en plastique, ça prend environ 400 ans avant de se décomposer dans l'environnement. Puis habituellement, on utilise un sac de plastique pour en moyenne 20 minutes dans une vie. Et en plus de ne pas se décomposer, souvent, ça peut avoir des impacts désastreux sur la faune qui, justement, s'étouffe, se prend dans des sacs de plastique, notamment dans les océans, les mers et cours d'eau.
Et voilà, bien dit. Donc, cette stratégie française, bien dit miracieuse, on se rappelle de l'annonce de Sugar Crisp en 1983.
Oui.
Donc, deuxième stratégie, excusez, pour revenir au gouvernement français, les biomatériaux qui sont en fait, oui, intéressants, point de vue alternatif, mais ne pas penser que maintenant qu'on invente des sacs biodégradables, on peut les utiliser à bon escient et faire tout ce qu'on veut, puis en utiliser une quantité astronomique sans se sentir coupable. Non, ce n'est pas vrai. Il faut utiliser les biomatériaux de façon intelligente et donc la consommation n'est pas la solution, c'est bien la diminution de la consommation qui est la clé. Et c'est ce que le gouvernement français s'attarde à dire. Alors félicitations, je lève mon chapeau, j'en profite pour faire un coup de cœur au gouvernement français qui, plus souvent qu'autrement, nous montre la voie à suivre.
Et c'est sur cette belle nouvelle qu'on va conclure la revue de presse, revue de l'actualité. Non, pas exactement. Au retour, on se fait le plaisir des brèves, les petites bites cette semaine, et il y en a beaucoup. Et donc, c'est déjà les brèves, c'est déjà la fin de Délirium environnemental. Ça passe tellement vite quand on s'amuse. Messieurs, les brèves, je vous laisse vous lancer.
Eh bien, moi, je me lance. En ce début de semaine, je vous invite à aller visiter le www.étiquette.ca. Étiquette, E-T-H-I-Q-U-E-T-T-E, dans le sens d'éthique. C'est un portail environnemental qui est lancé pour vous aider à faire des choix plus responsables en matière de consommation. Un produit exclusivement québécois. Donc, je vous invite premièrement à aller jeter un coup d'œil, mais aussi à donner vos filons si vous avez des tuyaux en matière de consommation responsable, proposez-les à bonne affaire quand le chier ce site. Bravo!
Eh bien, ça, sur notre site internet à nous, www.radiodelirium.net. On n'est pas dans les coups de cœur, coups de masse ou au calendrier, on est bien dans les brèves. Donc, Nicolas, c'est une petite brève pour nous.
Une grosse brève, je vais essayer de la faire brève, mais bon, c'est une étude qui vient de sortir, qui est parue dans Human Reproduction, qui nous dit, écoutez, on a étudié 35 humains en Tchécoslovaquie pour regarder, en fait, c'était des hommes, leur niveau de sperme, la qualité de leur sperme et surtout la réaction de ce sperme à l'exposition à des polluants et polluants atmosphériques. Et on a remarqué que en période hivernale, où est-ce qu'on utilise beaucoup les centrales au charbon pour comme source d'énergie, eh bien, on a remarqué une augmentation drastique des altérations de l'ADN du sperme et une diminution de la qualité de la quantité de sperme. Donc, un lien direct entre l'exposition aux polluants atmosphériques et la qualité du sperme. Des questions qu'il faut qu'on se pose, évidemment, puisque ici, Montréalais, que nous sommes exposés de plus en plus à des périodes de smog, smog estival et smog hivernal de plus en plus, combustion de bois de chauffage, entre autres, qui provoque l'hiver des smogs atroces. Alors, mesdames, messieurs, questionnons-nous sur l'impact de la pollution atmosphérique. Lisez cet article, c'est extrêmement intéressant et d'autant plus inquiétant. Ça passe dans The Guardian, d'ailleurs, je vous mets ça sur le site internet, radiodelirium.net.
Dans le même ordre d'idée, vous revenez à ce magazine parce qu'il me semble vraiment intéressant, particulièrement la version de automne 2005, La Maison du 21e siècle, le magazine de la Maison Saine, justement un article sur les PVC, une source importante de dioxine et de furan. On se souvient que les dioxines et les furan sont reconnus comme étant des perturbateurs endocriniens. Donc, ils s'attaquent à nos glandes endocrines qui font la régulation des hormones dans notre corps. Et puis, en fait, on l'apprend pas vraiment parce qu'on savait déjà que plus que jamais, nous devons éviter d'utiliser des bouteilles, fenêtres, couvre-planchers, stores, meubles de jardin et autres objets faits de PVC, qui est l'acronyme anglais du chlorure de polyvinyle, dit résine de synthèse, parce que justement, ça émane, de ces produits-là, des dioxines et des furans qui empoisonnent les humains qui s'y accoquinent.
Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, je vous conseille vraiment une visite à la boîte noire et louez-vous le film Bleu Vénile, qui est un documentaire justement sur l'utilisation du PVC pour les revêtements à l'extérieur, sur les maisons. En fait, c'est une comédie satirique extrêmement intéressante, plein d'informations. Bleu Vénile.
Je vous amène sur un tout autre terrain. Vous voyez ces temps-ci, suite aux catastrophes, par exemple, au Pakistan, aux États-Unis, en Louisiane. Bref, une mobilisation pour aider les personnes qui se trouvent à être déplacées suite à ces événements-là. On pense aussi aux conflits armés, aux autres violences qu'on voit partout émerger. Dans le fond, l'Institut universitaire des Nations Unies pour l'environnement et la sécurité humaine, en rajoutant celle des réfugiés environnementaux. On évalue 50 millions de personnes d'ici 2010 pourraient être des réfugiés environnementaux, dans le fond que les conditions environnementales de ce début de siècle auront déporté. On pense entre autres au désert de Gobi en Chine qui s'avance de 10 000 km² par an.
C'est énorme.
Ou entre autres la moitié des terres arabes d'Égypte qui est en voie de se saliniser, donc de devenir inutilisable. C'est très préoccupant.
Parlons de chiffres. Tout à l'heure, on parlait de grippe aviaire et de ces millions de poulets, poules et autres coqs de tout acabit qui vont être détruits pour cause de virus. 7 millions, c'est un chiffre très à la mode au Québec, en plus d'être la population du Québec. Savez-vous qu'il y a plus de 7 millions de porcs au Québec? Et oui, qu'on se le dise, vous savez, les porcs...
On a chacun notre cochon,
peut-être même ému, c'est à voir. Une autre chose, 7 millions, c'est aussi le nombre de pneus qui sont mis au rencard chaque année au Québec. Il y a moyen de récupérer ces pneus-là, notamment pour construire des maisons, si vous êtes les balançoires, encore. Ah, papa, Antoine parle encore, c'est beau, Nicolas.
Non, mais un beau feu, là, avec un pneu, là, rien de mieux, là, une belle boucane, c'est tellement fun.
On poursuit sur les brèves, Nicolas,
une grosse brève, en fait, sur l'Amazonie qui se dessèche, une sécheresse exceptionnelle, ça fait 40 ans qu'on n'a pas vu ça, et on est en train de faire le lien avec la quantité astronomique d'ouragans qu'on a eu dans le golfe du Mexique. Vous savez que la situation atmosphérique qui provoque les ouragans dans cette région-là semble vouloir assécher le grand bassin amazonien puisqu'il suce toute l'eau qui aurait dû tomber là sous forme de pluie, et bien va tomber sous forme d'ouragan plus vers le golfe du Mexique. C'est d'autant plus inquiétant qu'il y a des populations entières qui ont déclaré l'état d'urgence, et puis c'est le magazine Nature qui nous annonce ça cette semaine. On est en train de faire des demandes officielles au gouvernement fédéral pour aider les populations puisqu'on n'a plus assez d'eau, et puis c'est même les...
En Amazonie,
c'est incroyable.
C'est un bassin hydrique débile.
Exactement, c'est une des zones les plus humides au monde. On parle de 10 mètres d'eau par année qui tombe normalement. Et puis là, on a des gros problèmes. Et d'ailleurs, ça a provoqué des grands feux de forêt en Amazonie, mais de cause non pas humaine pour agriculture, mais bien naturelle, puisque sécheresse. Et ça, c'est du côté de la Bolivie. 150 000 hectares de forêt qui ont brûlé au mois de septembre, justement dû à la sécheresse dans la région amazonienne. Inquiétant, non, hein?
Ben moi, je vous invite finalement, en fin de brève, je vous invite à aller voir un peu plus régulièrement cette magnifique petite revue qui est pas trop scientifique, le Environmental Health Perspective, dans le fond, qui met plusieurs recherches à nature, santé humaine. Et une dernière qui vient de sortir, on a dans le fond, chez une population de jeunes élèves aux primaires aux États-Unis, eh bien, on leur a imposé un régime biologique durant une période de 5 jours consécutifs, et on a suivi dans leur urine les traces de certains pesticides utilisés dans l'agriculture états-unienne. Et on s'est rendu compte pendant ces 5 jours-là d'une diminution drastique de l'ordre de 80% de ces pesticides-là. Donc, on mange vraiment de la merde.
Le retour à Delirium environnemental, c'est l'heure des coups de cœur, coups de masse et au calendrier. Cette semaine, à vos crayons, papier, tout le monde pour le calendrier, pour le coup de cœur, coup de masse. Ben, vous en prendre l'acte peut-être, si c'est possible, messieurs.
Eh bien, moi, je me lance. Ce coup de masse est accompagné du sentiment du kayakiste en moi qui se sent complètement berné. La Société du Havre à Montréal, qui a des projets, des fois très beaux, de contour de dévier l'autoroute Bonaventure pour en faire quelque chose de plus beau, ou d'installer un casino en plein milieu du quartier Pointe-Saint-Charles. Eh bien, cette semaine avec l'idée du siècle, construire un barrage en plein milieu de l'île de Montréal qui bloquerait dans le fond toute la belle petite section de rapide qui est juste en amont du pont de la Concorde. Désolé, mais premièrement, c'est un hotspot pour n'importe qui fait de kayak, et en plus, c'est un des derniers lieux de frais en milieu urbain qu'on peut avoir dans le fleuve Saint-Laurent. C'est dégueulasse, c'est une idée de personne qui a pas de vision.
On a-tu entendu le nom de Lucien Bouchard?
Lucien Bouchard, ancien ministre de l'Environnement au gouvernement fédéral conservateur début du...
La Cité du Havre.
Oui. Directeur.
Bon, après ce coup de masse phénoménal, jetons un petit coup de cœur à la Société Radio-Canada qui a fait un petit reportage, dossier spécial bien intéressant. Nos villes entre les mains du transport en commun. C'est un dossier spécial sur le transport en commun, bien entendu. C'est une comparaison entre Portland en Oregon, qui est bel état états-unien sur l'Oregon. Et Montréal, donc Portland étant la hotte et Montréal étant la poche. Je vous conseille d'aller écouter ça, c'est passionnant. Vraiment, il y a des choses à apprendre. Ça va peut-être donner quelques idées à certaines personnes influentes ici. Ça sera bien sûr sur notre site internet au www.radiodelirium.
Pendant que tu parles de Portland et du système de transport en commun, je ne peux m'empêcher de, un, donner un coup de masse solide à Radio-Canada par la même occasion, puisque vous savez qu'on est en campagne électorale. Ici à Montréal, on a trois partis qui se proposent à la mairie. Vision Montréal, Projet Montréal et l'ultime. Projet Montréal constamment boycotté des tribunes, constamment boycotté des débats. Vous savez que Projet Montréal a un programme extrêmement intéressant, il y a des bonnes idées. Vient de sortir ses pancartes tout à fait charmantes, je suis charmé. Alors un beau coup de cœur à Projet Montréal qui continue à travailler contre vents et marées et coup de masse à Radio-Canada et les autres gros médias qui les boycottent constamment.
Moi, je vous suis avec un autre coup de cœur, le Regroupement national des crues du Québec qui est allé d'une sorte...
Conseil régional en environnement
qui est allé d'une sortie publique, dans le fond, qui interpelle les citoyens québécois qui sont appelés à voter d'ici un mois sur la scène municipale, d'interpeller leurs futurs élus et de leur rappeler dans le fond qu'ils ont des préoccupations environnementales, de les signaler publiquement et surtout de les forcer à les tenir, ces promesses-là. J'ai un beau petit coup de cœur à la population québécoise qui ont compris à 71% que les activités humaines seraient la cause des changements climatiques. Vous savez que ce 71% de la population québécoise, c'est loin de faire figure de... c'est pas ça que je voulais dire. Bush dans cette histoire-là. Il a-tu compris, lui, que c'était les activités humaines qui causaient les changements climatiques? Non.
Pauvre Nicolas. Bush n'a pas compris grand-chose.
Alors voilà.
Félicitations. Vous avez compris.
Moi, j'ai voté une activité au calendrier pour ceux qui sont intéressés à la question des OGM. Et pour ceux qui ne le sont pas, c'est peut-être une belle façon, justement, de s'humilier, de s'intéresser un peu à cet enjeu qui concerne l'humanité au grand complet. Des grands chercheurs de renommée internationale seront à Montréal. Je parle, bien sûr, de Jean-Jacques Salomon, de Gilles-Éric Serralini et de M. Gilles Bibeault. M. Bibeault a écrit le livre Le Québec transgénique. M. Serralini a écrit notamment le livre Génétiquement incorrect. Et puis M. Salomon, notamment le livre Survivre à la science. C'est une grande conférence qui aura lieu mardi le 25 octobre à 19h30 à l'amphithéâtre du pavillon Sherbrooke de l'UQAM. C'est totalement gratuit pour entendre ces trois conférenciers-là. Vraiment, je pense que ça vaut la peine de se déplacer parce qu'ils habitent pas ici et on n'a pas souvent la chance de les entendre. Toutes les informations sont sur notre site internet.
Bien, moi, je trouve que cette série de coups de cœur, coups de masse, il n'y a pas assez de coups de masse ce soir. Alors, j'en donne un beau, en fond, au gouvernement québécois qui a autorisé cette semaine la construction de l'autoroute 175 qui sera désormais une autoroute. Quatre voies bétonnées, 143 km entre Québec et le Lac-Saint-Jean. Vous savez qu'on va exproprier 59 personnes ou 59 résidences pour construire cette route-là. Et dans le fond, de citer notre cher Thomas Mulcair qui nous dit qu'au niveau environnemental, les conditions d'autorisation du projet garantiront le maintien de l'intégrité des écosystèmes aquatiques et forestiers, la protection de la grande faune et la sécurité des usagers du territoire et de la route. Quand on construit quatre voies de béton puis d'asphalte, on ne protège pas d'écosystèmes. Désolé.
Eh bien, mesdames et messieurs, une première dans l'histoire de délirium environnemental, un coup de cœur envoyé à un joueur de hockey, mesdames et messieurs.
Et Joey Juno
qui s'attribue la cause de la protection de la forêt québécoise en s'alliant avec plusieurs citoyens de la région de la Mauricie en défendant un grand territoire de 5000 km² et plus même de 10 dernières grandes forêts mauriciennes et en fait un de ses terrains de jeu, évidemment de plein air, cette belle grande forêt qui a été proposée comme future aire protégée au gouvernement. Félicitations à tout aussi la gang de la Seigneurie du Triton, grande pourvoirie qui s'est associée avec les résidents là-bas pour demander une aire protégée. Je lève mon chapeau à Joey Juno qui sait quoi faire avec la POC.
Et c'est ce qui annonce la fin de Délirium environnemental. Décidément, une heure, ça passe tellement vite pour parler d'informations en environnement. Encore une fois, l'équipe de Délirium environnemental, bravo, vous êtes magiques. Cette semaine en studio avec moi, Nicolas Mainville, Nicolas Milo, merci beaucoup d'avoir fait cette sélection qui a dû être difficile, je l'entends.
Toujours.
Pour tous ceux qui voudraient trouver l'ensemble de l'information ou s'abonner à la Cyberlette ainsi que lire de plus en plus de nouvelles, plus de nouvelles sur l'environnement, le www.radiodelirium.net, c'est notre site internet. L'équipe technique Claudie Théberge, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Quelle relève incroyable. Faut dire que la barre était haute avec Étienne Côté-Paluc qui a fait longtemps la mise en onde et qui maintenant s'occupe uniquement de la conception de notre site internet. Un gros merci à Étienne Côté-Paluc donc pour le site internet. Et aussi, bien sûr, l'absence cette semaine, mais qui était là dans nos cœurs, comme d'habitude, Patrick Bonin.